pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir. Et oui, on était en train de faire autre chose. Alors ce soir, comme on vous l'avait dit la semaine dernière, on va encore revenir de nouveau sur Sainte-Soline avec, si tout se passe bien, un intervenant exceptionnel qui nous fera l'amitié d'être avec nous d'ici quelques minutes. Et on va revenir évidemment à la fois sur ce qui s'est passé depuis, avant et depuis, puisque non seulement ce week-end, il y avait des rencontres contre pour faire le point sur et la lutte et ce qui s'est passé depuis un an. Et puis il y a de nombreuses condamnations qui sont tombées un petit peu malheureusement dans l'indifférence, enfin en tous les cas dans un silence relatif. Mais bon, voilà. Alors ce week-end, il y avait donc des rencontres à Mel, qui est la commune où la plus proche où se situe la bassine de Sainte-Soline. Et Denis, tu as...
Sainte-Soline, oui. C'est déjà une commune. Hein. Il y a peu d'habitants, c'est vrai.
C'est vrai.
C'est une commune quand même.
Ça, c'est vrai. Et Mel... Excusez-moi pour les habitants de Sainte-Soline.
Et Mel, c'est le gros bourg d'à côté, quoi.
Voilà, chef de canton.
Sauf que Sainte-Soline, le maire est pour les bassines.
Ouais.
Hein, alors que Mel, c'est plus nuancé, je crois.
Oui, il y a même, on va dire, une empathie avec le mouvement. En tous les cas, il n'y a pas d'opposition au mouvement comme on peut l'avoir à Sainte-Soline, quoi, ou dans d'autres communes, quoi. Voilà. Donc, ouais, il y avait quand même pas mal de monde lors de cette rencontre, quoi, ce week-end. C'est
Et
ça
on parle de 400 personnes, ouais, c'est environ. Pas mal. Il y a eu des tables rondes, il y a eu des projections de deux documents, dont un d'investigation. Certainement peut-être l'interview,
ouais, c'est ça.
Mmh. L'interview avec Serge qu'on devrait avoir tout à l'heure. Il y a eu aussi des tables rondes, comme je le disais, la présence de bien sûr Bassine Non Merci BNM, la réalisatrice et le producteur d'un document Autopsie d'un carnage, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Sainte-Soline, Autopsie d'un carnage. Il y avait Julien Le Guet et il y avait aussi un député européen, Benoît Biteau, des écologistes, et le responsable de la conf des Deux-Sèvres de 79. D'ailleurs, avait été est passé en procès pour l'organisation de la manif du 25 mars. Alors justement, par rapport à ça, il y a eu pas mal de procès. Et il va y en avoir encore, je suppose, puisqu'on en est, je crois, à 21 condamnations. Hein, 21 condamnations. C'est tous des condamnations, sauf une, qui est à prison avec prison ferme pour une personne de 42 ans qui a été pris apparemment pour lancer des pierres aux gendarmes il y a un an. Donc il a morflé, lui. D'autres ont pris souvent de la prison avec sursis. Ça fait pas trop la une, hein, comme tu le dis. Hein, on en parle surtout dans Le Monde, dans Mediapart. Bon, mais n'empêche qu'il y a eu aussi au départ les organisateurs qui ont été condamnés, toujours avec de la prison avec sursis. Il y avait quelqu'un de la CGT, quelqu'un de
la Confédération paysanne.
Confédération paysanne, quelqu'un des soulèvements de la terre.
C'est ça.
Voilà.
Il y a l'ensemble, on va dire, du réseau soulèvement de la terre. Soulèvement de la terre. Il est passé, ouais.
Voilà. Et là, depuis le dernier procès qui a eu lieu, c'est le 28 mars, donc c'est très récent. Ce sont donc des gens qui ont été pris grâce aux caméras, est-ce qu'il y a eu de la reconnaissance faciale, on le saura après, pour voir un petit peu, pour identifier les gens. Est-ce que la police a utilisé la reconnaissance faciale? On ne sait pas. Alors que la reconnaissance faciale, normalement, ne doit pas intervenir. Mais bon, ça, c'est une autre paire de manches.
Alors, tu disais, ce sont des gens qui ont été identifiés à l'aide d'images, de moyens techniques, et qu'on est allé ensuite rechercher. Donc, il y a quand même... Un petit peu de moyens, quoi, qui sont
Ils se donnent les moyens, ils veulent frapper fort. Et d'ailleurs, je crois que, bon, j'ai sous les yeux le compte-rendu de ce qui s'est passé ce week-end, donc, à Mel. Et la personne dit que l'État a vraiment voulu le degré de répression qu'il y a eu, le 25 mars. Il a recherché un nombre important de blessés pour casser le mouvement anti-bassine et le soutien que lui apporte une partie de la population. Donc c'est bien un choix politique de l'État qui s'est traduit par l'utilisation d'armes de guerre et des tirs non réglementaires, mais aussi par l'entrave à l'arrivée des secours, on en parlera tout à l'heure avec Serge, et par la faiblesse de ces secours en comparaison avec les forces de police mises en œuvre. Effectivement, ça, c'était sur le terrain choquant de voir si peu de personnes pouvant intervenir pour des blessés, alors qu'il y avait énormément de monde. Hein. Je crois qu'il y avait 20 000 personnes, peut-être plus, je ne sais pas. Et puis aussi, surtout, en 2 heures, il y a eu 5 000 grenades qui ont été lancées, grenades de tout genre, hein, des encerclements, grenades offensives, tirs tendus, vraiment des violences dingues. Lacrymogènes évidemment, et qui ont fait que c'était voulu par le fameux sinistre de l'intérieur, hein, qui s'en est vanté d'ailleurs. Il fallait frapper fort. Ils ont frappé fort, effectivement. Il y a eu, faut le rappeler, 4 blessés graves, hein, dont Serge. Blessé, c'était un miracle. J'aime pas le terme miracle, mais c'est étonnant qu'il n'y a pas eu de décès, de gens tués par les flics.
Ben, en fait, ce qui a été, et on y reviendra, j'espère qu'on va réussir à avoir notre interlocuteur, c'est que la répression en termes de masse a été super importante et sur un très court terme. C'est-à-dire que on a pu avoir des répressions en termes de maintien de l'ordre qui pouvaient être violentes, très violentes, mais on était un peu plus espacés, dilués dans le temps. Là, en deux heures, il y a vraiment eu quelque chose de très très intense. Et puis, comme il y avait un nombre très important de forces de l'ordre, on est sur un ratio un gendarme, un flic pour 3 manifestants, quelque chose comme ça. On parle de 5 000 à 6 000 membres des forces de l'ordre qui étaient là. Alors quand on parle des forces de l'ordre, ce sont les gendarmes mobiles, c'est ceux qu'on voit qui cognent, mais c'est tout ce qu'il va y avoir aussi derrière en termes de renseignement, en termes d'observation, etc. Et on sait également que les opérations était suivi par la chaîne de commandement et directement relié par les autorités du ministère de l'Intérieur. D'autre part, on a aussi une partie de la population qui est venue à Sainte-Soline qui n'est pas forcément habitués à ce type de violence. Alors, je vois notre camarade qui nous fait signe dans son bocal, qui s'agite dans son bocal. Est-ce que tu as quelque... Oui, nous avons Serge. Ah, c'est formidable. Serge, est-ce que tu nous entends?
Je t'entends.
Ah, super. Merci. Alors, ben merci beaucoup de nous accorder la fin de ton lundi de Pâques. t'as été un peu occupé. Je voulais te dire et je te le dirai une fois. Hein, après, je dirai tes trucs gentils. Qu'on était vraiment très très heureux de t'avoir ce soir. Et je te cache pas qu'on est un petit peu. Enfin, moi personnellement, je suis un petit peu ému quand même de pouvoir discuter avec toi de toute cette merde après un an. Et d'ailleurs, la première question que je vais te poser, même si je sais que j'ai déjà la réponse, mais pour nos auditeurs qui ont eu entendu parler de toi partout, comment est-ce que ça va déjà, toi?
Ben écoute, plutôt bien.
Ouais.
Déjà, je suis content de voir que t'es toujours aussi émotif comme hier.
Vas-y, profites-en. Tu as carte blanche ce soir.
Mais non, ça va beaucoup mieux.
Ouais.
Bon, c'est pas réglé, hein, mais. Mais en tout cas, mieux qu'un an, ça c'est sûr.
Oui,
c'est pas dur.
Oui, parce que t'as quand même fait un ou deux mois de coma. Faut le rappeler, je pense.
Ouais. En tête, mais oui, un mois et demi,
ouais, c'est ça. Bon, ensuite, je crois que tu as eu une opération difficile là récemment qui a été un succès. Ouf!
Ouais, il y a eu deux tentatives en fait. Hein. C'est que voilà, c'est devenu une habitude, on va dire. Ça fait un an que je me fais ouvrir le crâne, ils ont dû le faire une première fois pour désengorger l'œdème.
Et ils n'ont toujours pas trouvé, c'est ça?
Si,
oui, le problème. Non, mais là, effectivement, moi, j'ai enfin une prothèse. Voilà. Ouais.
C'est ça. Donc, bon, un long parcours médical qui n'est pas terminé, mais on va dire pour un résultat pour le moment qui est positif, même si, évidemment, il y a des choses qui mettront plus de temps à revenir, voire peut-être qui ne reviendront pas. Mais est-ce que tu pourrais dire que, bon, la vie d'avant, ça va pas être la même chose, mais bon, en tous les cas, il y a quand même beaucoup de positifs, quoi. On peut rassurer les gens qui s'intéressent à ton cas, ouais.
Oui, voilà. Bah, depuis peu, hein, mais après, bon, il y a eu des progrès par-ci par-là au fur et à mesure. Hein. C'était pas non plus tout d'un coup un électrochoc, hein. C'est allé progressivement, quoi.
Puis, ouais, bien sûr.
Pareil, il y a des choses qui vont mettre du temps, mais qui reviendront peut-être. Bon, il y a des choses qui arrivent vraiment pas aussi.
Ça va être un combat et ça va être une lutte, mais ça, la lutte et le combat, tu connais quoi, hein. Où est-ce que tu en es d'un point de vue, on va dire, procédural? Est-ce que tu as eu le temps de t'intéresser à ça? Parce qu'il y a, on parlait de la justice là, qui n'y va pas de main morte sur les opposants à la bassine et sur... on va dire les manifestants, ceux qui ont participé à cette manif. Et d'un autre côté, on sait qu'il y a 5 ou 6 plaintes qui ont été déposées, qui ne sont pas encore instruites. De ton côté, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu voulais faire? Où est-ce que tu en es par rapport à ça?
Bon, moi, déjà, comme je l'ai déjà dit, mais le fait est que quand cette plainte a été déposée par la majorité des gens, moi, de toute façon, je n'étais pas en état de le faire. Derrière, c'est pas trop dans mes habitudes de passer par la justice pour résoudre mes conflits politiques. Oui. Et surtout, je ne pense absolument pas, au vu de la manière dont les violences policières sont traitées en France depuis X années, que la justice viendra mettre son nez là-dedans. Après, c'est aussi, faut le considérer comme une porte de sortie, hein, pour l'État. C'est que si ça ressort trop qu'effectivement Santoline, c'était, on va dire, une bavure étatique, ça leur permet de dire, regardez, l'affaire est close, on a dédommagé, on a fait ci, on a fait ça, on a condamné un policier, et basta. Donc c'est ambigu comme question, parce qu'à la fois, ne rien faire, c'est quand même leur laisser carte blanche, et en même temps, aller sur ce terrain-là, c'est quand même leur terrain, donc en tout cas, il faut le faire sans espoir, quoi.
Ouais.
Alors, ouais, la difficulté, c'est que en plus, il y a une démarche collective, c'est-à-dire qu'on sait... qu'il y a au moins 200 personnes qui ont été blessées ce jour-là, plus
des centaines et des centaines d'autres qui ont subi ce qu'on appelle des dégâts psychologiques, quoi, qui ont été choqués. Donc, bon, peut-être ça aussi à quelque chose. Enfin, tu as raison, c'est pas simple. Enfin, tu as largement le temps de réfléchir à ça.
Oui, bien sûr.
Et alors, justement...
Le truc, c'est que de toute façon, l'enquête, à l'heure actuelle, elle est toujours un peu au point mort. Ils n'ont toujours pas rendu leurs expertises. Donc, l'avocate n'a même pas de quoi aller au tribunal civil. Parce que il n'y a ni l'expertise balistique, il n'y a rien. Moi, ils ne savent toujours pas par quel type de projectile j'ai été touché, par exemple. Donc, il faut imaginer les autres enquêtes, hein, s'il y en a 200.
Tu m'étonnes. Comment ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans leur matos, c'est ça?
Ouais, ils n'ont pas rendu. Alors, ils ont gardé quand même mes chaussures pendant tout ce temps. Les analyser au cas où je m'étais blessé tout seul.
Mais... C'est ça, un truc qui traînait dans le camion. Et d'ailleurs, on parle de 200, de 200 blessés ce jour-là. Bon, on se connaît, on a fait des manifestations ensemble, certaines plus agitées que d'autres, certaines moins syndicales que d'autres. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de cette journée? Est-ce que, au vu de ce que tu te rappelles, ou au vu de ce que tu as, est-ce que tu pourrais qualifier la violence de ce que tu as vu?
Non, la vérité, c'est que le cerveau a fait volontairement... couper les souvenirs de cette journée et des jours qui l'entouraient. Ouais. Donc je n'ai absolument aucun souvenir. Bon, le fait est que j'ai vu des vidéos, donc j'ai quand même une bonne idée de ce que c'était. Et surtout, j'ai eu les témoignages de gens que je connais qui étaient à cette manifestation. Donc oui, je pense qu'il n'y a pas trop de doutes sur le fait de dire que quand ils parlent de zone de guerre, c'en était une, quoi.
D'accord.
J'ai plus en tête le nombre de déflagrations à la seconde, mais...
On est sur 5000 grenades en 2 heures. Voilà. C'est à peu près l'ensemble de ce qui est jeté en une année de maintien de l'ordre sur l'ensemble de la France. Donc, comment tu interprètes, toi, cette frénésie répressive, quoi, ouais.
Bah, je pense que c'était un message politique.
Je crois, oui.
Clairement, on était en pleine mobilisation sur la réforme des retraites. Ils avaient peur que c'est cette journée qui allait rassembler tous les gens qui avaient envie d'un peu de lutter. Ça devenait une victoire au sens qu'il y avait, en tout cas, la police était mise en échec et la bassine potentiellement prise. Ça constitue une victoire politique et que ça vienne créer des conséquences sur le terrain aussi social. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont...
C'est ça. On a aussi dit qu'il y avait des convergences d'intérêts, donc des intérêts, on va dire, immédiats, à savoir que si potentiellement quelque chose de l'ordre de ce qui pourrait s'apparenter à de l'action directe, c'est-à-dire que s'il y avait eu une victoire ou un gain de ce mouvement anti-bassine, ça aurait pu donner des mauvaises idées aux manifestants sur les retraites, et puis ensuite il y avait des calculs politiques de la part du ministère de l'Intérieur, etc. etc. Nous, ce qu'on...
Ouais, je pense qu'il y a autre chose, hein, c'est que ça fait quelques années qu'ils y réfléchissent, que bon, il y a cette structure-là qui s'est montée, mais ça fait quelques temps qu'il y a des luttes contre les 10 grands projets, et qu'à un moment donné, l'État, il est là pour garantir quand même que les investissements de la classe capitaliste... ils se fassent et qu'ils sont mis en échec à chaque coup. Donc,
ouais, surtout que les paysans, les gros paysans sont là pour faire pression.
Ouais, un coup les gros paysans, un coup ça pourrait être une autre industrie, mais en tout cas, voilà, il faut maintenir quand même les investissements capitalistes.
Alors, on va encore parler de toi 2 minutes et après on passera à autre chose parce que c'est quand même une lutte se dépasse. Je sais pas si tu as eu, qu'est-ce que tu as eu comme écho sur la solidarité directe et indirecte qui a été délivrée à la fois par rapport aux gens de Sainte-Soline, mais aussi à ton égard. Qu'est-ce que tu as eu comme retour?
Oh bah, c'est pas un écho, hein, pour le coup, j'ai pu la toucher directement, cette solidarité. Elle a quand même été très présente, et en premier lieu par, on va dire, les solidarités amicales et de camaraderie que j'avais construites depuis des années.
Bien sûr.
Ouais, il y a eu une réponse politique forte et intéressante, et en tout cas j'ai pu le constater quand je me suis réveillé. Donc ça m'a satisfait grandement, et après oui, c'est vrai que j'ai eu une solidarité... on va dire, multiforme. Parce qu'il y a eu tous les cadres habituels, hein, politiques, de travail, sociaux, et amicaux, et même familiaux, voilà.
Mais en plus, je pense que c'est ce qui t'a fait plaisir aussi, c'est que ça a été d'abord, avant tout, une solidarité politique. Et moi, j'ai souvenir, lors de manifestations de solidarité dans le mouvement social contre les retraites, où les gens venaient et prendre les tracts pour les distribuer d'une part. Et en plus, le discours politique qu'on portait, parce que on te connaissait et qu'on partage tes plus ou moins tes positions et tes actes de combat, à savoir une volonté de transformer radicalement la société, une lutte par tous les moyens possibles et une solidarité de classe et sociale. Quand ces choses-là étaient mises en avant, elles étaient partagées, elles étaient imposées et elles étaient indiscutées. Donc c'est aussi cette forme de solidarité-là qui nous a marqué et frappé. Vous voyez, oui. C'est de dire, voilà, Serge, il est anarchiste communiste, et puis c'est tout, point. Voilà. Et les gens étaient tout à fait OK de dire, mais personne n'a été traité comme ça, et on a tout à fait on a raison de se révolter, quoi.
Oui, bah, je pense que l'axe qui a été pris par les camarades en termes de défense politique, c'était un axe plus qu'intéressant, mais dans le sens où il évitait les écueils qui ont eu assez souvent sur des questions anti-répressives, et la personnification, et l'innocentisme, et le fait de disjoindre la répression d'un moment d'une situation de lutte plus générale et de la situation de la classe dans son ensemble. Donc voilà, relier l'écologie au social, ça a été fait immédiatement, voilà, ça a parlé plus largement qu'aux simples participants de cette manifestation.
Et ça fait vraiment du bien, parce que justement, en général, tu l'as dit, sur l'anti-répression, on est toujours emmerdé, parce que, on est emmerdé, non, mais t'as toujours des problèmes de dire, il a rien fait, il a fait des trucs, c'est pas grave, c'est pas bien, on n'a pas le droit d'être traité comme ça. Là, au moins, il n'y avait pas du tout d'ambiguïté, et là, c'est aussi quelque chose qui fait très plaisir.
Est-ce que depuis, tu t'es un peu rebranché par rapport à ce combat contre les bassines?
Non, parce que la vérité, c'est que j'habite quand même assez loin.
Ouais.
Que en soi, c'était pas non plus... Bon, c'est un ensemble de circonstances qui fait que je me suis retrouvé là-bas. Mais c'était pas prioritaire du moment. Et après, si je m'y intéresse, je suis ce qui s'y passe. Mais je suis pas non plus en accord total avec la direction politique du soulèvement de la Terre, quoi. Donc j'ai aussi des réticences. Après, je suis quand même avec attention. Hein.
D'accord. Et tu sais que ce week-end, il y a eu des rencontres à Mel.
Oui. Oui. J'ai vu même des... Ouais.
Alors, de toute façon, ça, c'est des choses qui peuvent se discuter. Mais bon, il se trouve que là, la bassine, elle était dans ton fief historique, puisque, comme tout le monde le sait, le Marais Pointe-Vin est le poumon de l'humanité, juste devant l'Amazone. Mais justement, toi, comment tu interprètes et tu considères cette question de l'eau, pas d'un point de vue, on va dire, environnemental ou écologiste, même si bien sûr c'est quelque chose qui fait important, mais d'un point de vue capitalistique, on pourrait dire d'un point de vue social.
Moi, je pense que j'ai que des évidences à dire là-dessus, hein. C'est que voilà, tout le monde le sait, que il suffit de voir rien que cet été le nombre d'endroits où il y avait des arrêtés préfectoraux pour t'indiquer que l'eau n'était plus potable. À un moment donné, bon, c'est évident que qui va avoir accès à l'eau, pour qui, pourquoi et pour en faire quoi. Bon,
tout à fait.
C'est de plus en plus problématique pour des gens comme nous, oui, ça, c'est sûr.
Tout à l'heure, tu as évoqué tes divergences par rapport à la direction politique des soulèvements de la Terre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bon, c'est compliqué, mais après, bon, déjà, je pense que pour le coup, le fait est qu'il se pose comme une direction et que ça, déjà, ça me va pas.
Oui, c'est sûr.
Ensuite, il y a le fait de disjoindre, eux, complètement la question écologique de la question du système capitaliste.
Ouais.
Et après, je pense aussi que des événements comme Sainte-Soline, la manière dont ils ont géré, c'était un peu une erreur politique, au sens où le bilan des contre-sommets, il a quand même été fait depuis très longtemps.
Et, complètement, ouais.
Et que là, bon, ce mode de fonctionnement qui consiste à aller voir dès qu'il y a une lutte de base un peu sur cette question écologique ou des grands projets, elle se mène quelque part, ils envoient des émissaires, machin, et ils s'accaparent le truc pour en faire juste un appel plus large à ce que tout le monde rejoigne pour faire une journée d'action. Ça a toutes ses limites, et en tout cas, c'est très bien géré par l'État.
Oui, tout à fait. Ça m'a rappelé, moi, parce que je suis un peu plus vieux, ça m'a rappelé 1977, ce qui s'était passé à Malville, quoi. C'est-à-dire qu'on risquait pas de gagner ce jour-là, c'est clair. D'ailleurs, depuis, on a perdu complètement.
Mais ce qui n'empêche pas que, pour le coup, il y a une lutte réelle et profonde aux alentours de Sainte-Soline sur les méga-bassines, et il y a des collectifs qui mènent cette lutte de manière plus pérenne.
C'est ce que j'allais vous dire pour motiver la discussion, c'est que d'autres, malheureusement, enfin heureusement, je sais pas comment dire ça, c'est aussi des luttes qui fonctionnent. C'est-à-dire cette manifestation de Sainte-Soline, elle a quand même ramené 30 000 personnes. Donc c'est cette espèce d'ambiguïté qui y a de ce lutte de territoire, de ces luttes hors cadre, où on met pas de comment dire ça ? On met pas forcément son être social dedans, mais ça attire l'attention et y a énormément de publicité qui est faite autour des soulèvements de la Terre, quoi.
Oui, puis le fait est qu'on s'est tellement éclaté sur le plan social, sur les mobilisations des dernières années, qu'à un moment donné, ces micro-luttes qui ramènent du monde et qui ont tendance à s'opposer à un projet clair et défini, il y a la possibilité d'une victoire, entre guillemets, elle apparaît comme plus probable, je pense.
Ouais,
c'est ça. Ouais, mais elle mobilise pas les mêmes secteurs de la société, quoi.
Non, ça c'est sûr.
Enfin bon, voilà. Même si, par rapport à ça, le discours que tu disais sur le relier à la crise capitaliste et au capital, il est fondamental, quoi. Parce que justement, dans son entreprise de captation de tout ce qui peut faire de l'argent... les dernières ressources naturelles, l'eau, le temps, le sommeil, l'attention, entrent dans le giron du capitalisme, quoi.
Oui, et puis là, en plus, ça a été assez bien prouvé par quelques documents politiques ces derniers temps, hein. C'est un projet qui s'insère dans un cadre beaucoup plus global, voulu par Macron, pour le coup, mais de retransformer tout l'ouest de la France en une grande plaine céréalière pour l'exportation internationale, notamment en Afrique. Qu'il y a eu une transformation réelle du port de La Rochelle dans ce sens-là depuis des années. Que c'est sûr que c'est pas un simple projet isolé dans un village.
Tout à fait.
Oui. Dans la captation d'eau, c'est lié à quelque chose de beaucoup plus global en termes de restructuration de l'industrie agricole. Oui.
Oui, c'est ça. C'est pas. Alors, on connaît la capacité de nuisance des grands céréaliers et du maïs et ce genre de merde dans l'agro-industrie française. On l'a encore vu il y a quelques semaines dans les 10 mouvements, quoi. Mais on est sur un truc encore plus dingue. Ce qui nécessite d'ailleurs l'appui de l'État et de toute sa capacité d'imposition et de persuasion, quoi.
Oui, clairement. De toute façon, les grands céréaliers du coin, ils la font déjà. La défense de ces bassines au quotidien, a priori, de ce que j'ai compris, ils rôdent en voiture, et en un de ces jours, ils vont faire eux aussi, ils vont tirer sur des gens, hein, ils vont le faire.
C'est
plus simple quand c'est l'État qui le gère avec sa police.
Ouais, tout à fait, ouais. Alors en plus, d'après ce que l'on sait, les bassines ne sont pas encore en fonctionnement. Enfin, la bassine en question de Sainte-Soline n'est pas encore en fonctionnement. Il faudra attendre un an, d'après ce qui est dit dans la presse. Hein. Je ne sais pas si sur le terrain, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Oui, alors il y a parmi le mouvement anti-bassine, parmi les BNM, paraît-il qu'il y aurait un rassemblement fin juillet. Tu as entendu parler ou pas ?
Pas du tout, non.
Pas du tout, d'accord. Bon, bah c'est tout, c'est peut-être une nouvelle venant d'Internet. Hein.
Ouais. On voit aussi, là, depuis quelque temps, comment dire ça un récit. Il y a un premier récit qui s'est construit, qui est celui du pouvoir, qui a été fortement alimenté et pris en charge par les médias habituels, puisque on s'est permis notamment de diffuser des informations sur toi, mais d'une manière générale de discréditer le mouvement. On a un contre-récit qui a commencé à émerger, mais ce contre-récit, il est malheureusement... pour moi, je trouve, pas pris en charge par les acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des filtres qui sont passés ou des spécialistes qui mettent en forme ce récit. Là, il y a un bouquin qui vient de sortir qui s'appelle « Avoir 20 ans sur Sainte-Soline ». Et c'est aussi pour ça qu'on avait envie de t'avoir au téléphone ce soir. C'est parce qu'on se rend compte que il y a assez peu de choses qui émergent de ce mouvement en vrai, à part, on va dire, les cadres et les filtres habituels. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu expliques justement que il y a assez peu de réponses ou de discours politiques qui émergent des gens qui sont allés à Sainte-Soline pour empêcher cette bassine d'avoir eu lieu, quoi?
Oui, bah, je pense pas avoir une réponse claire parce que j'en connais pas tant que ça et que moi j'ai une mémoire défaillante sur ces journées-là, mais je pense qu'il faut pas négliger la part du traumatisme, hein. C'est que il y a quand même énormément de gens qui ont participé à cette lutte sans être blessés comme moi ou comme d'autres, mais qui en ressortent avec l'idée que
c'est pas possible, tout à fait.
Ouais, enfin, que c'était
une zone de guerre.
On a paniqué sur les suites, quoi.
Ouais.
En tout cas, ah, ça, oui. C'est un discours qu'on m'a souvent, même de gens que je connais pas, qui m'ont contacté pour me dire, voilà, c'est un carnage. Faut même imaginer. Le nombre de médics présents qui eux-mêmes, dans leur prise en charge des blessés, ont dû être complètement traumatisés, mais voilà, c'est un peu...
Oui, tout à fait.
Mais c'est... Enfin, je vais être un peu dur dans mon propos, mais je m'en excuse par avance, c'est pas de la condescendance. Quand on s'affronte à l'État et à ses forces, quand on mesure les enjeux qu'il y a derrière, à quoi on s'attend?
Oui, bah, je dirais même plus loin. Je pense que quand tu prévois de refaire une manif qui est l'identique de la dernière, et qu'en plus tu l'avoues dans un texte, hein, ils l'ont dit, hein, on n'a pas su se réinventer, blabla, et que tu prévois une quantité hallucinante de médics comme si tu allais dans un conflit guerrier, tu sais que ça va se passer comme ça en partie.
Oui,
tu sais qu'il n'y aura pas de victoire politique sur le terrain.
Sur le terrain, ouais.
Avec des degrés dans l'intensité, bien sûr, voilà. On sait qu'on a en face des gens qui sont, si ce n'est prêt, en tous des cas, capables de tout pour quiconque a participé dans les manifestations au cours de ces 20 dernières années. Il y a une radicalisation de la répression physique. Il y a des bécanes qui nous roulent dessus, quoi. il y a déjà eu des morts dans les manifestations. J'ai participé à deux manifestations où il y a eu des morts au cours de ma carrière. La première, c'était par balle, donc là les choses étaient claires. La seconde, c'est avec des armes d'efflagration, quoi. Donc c'est la réalité, quoi. Donc quel va pouvoir être l'avenir éventuellement de ce mouvement? Quelles sont les perspectives, quoi, à ton avis,
hein? Alors, de ce mouvement, j'avoue que j'ai pas assez d'éléments et pas assez de réflexions pour donner mon avis. Par contre, sur les luttes en général, je pense qu'effectivement, l'enfermement sur la question de l'affrontement spectaculaire et symbolique, comme ça avait déjà été un peu le cas en termes d'impasse dans les Gilets jaunes, il y a un moment donné où je pense que oui, voilà, il y a quand même, on a d'autres types de forces à mobiliser que celle-là, même s'il faut pas la négliger, hein, mais qu'il y a eu une montée en puissance depuis ces années sur la capacité de la force collective dans les moments d'affrontement politique, elle est réelle, il y a des gens qui la cherchent, mais il y a des caps qui soit ils sont franchis, soit en fait pour l'instant on sera toujours en défaite sur ce terrain-là.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi complètement.
Alors, d'un autre côté, on ne peut pas dire qu'il ne se passe pas rien. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire que le mouvement, le chemin, il se fait en cheminant, comme disait le poète. Donc Je reste persuadé que parmi les grévistes du mouvement des retraites, il y avait des gens qui avaient participé aux Gilets jaunes et vice-versa. Donc ceux qui arrivent à passer entre les gouttes de la répression et ceux qui se relèvent de cette répression, parce que elle marque physiquement et mentalement, quoi. Il y a des gens qui ont plus envie de revenir parce qu'ils se sont fait déglinguer, quoi, judiciairement, etc., etc. Ils accumulent des savoirs, ils accumulent des choses, non, quand même.
Ouais. Après, le problème, c'est que moi, je peux le constater à titre personnel, mais c'est dans la rendu bien plus large, c'est que autant la répression judiciaire, on la connaît, on l'a analysée, on l'a combattue, on a créé des outils qui ont leur efficacité, clairement, et qui permettent de contrer la peur de cette répression au moins en partie. Autant la répression physique, bah moi j'en étais pas assez habitué. J'ai déjà pris des coups de matraque sur la question, mais donc voilà, se faire déglinguer comme ça et risquer sa vie quand on va en manifestation, c'est autre chose.
C'est autre chose.
Surtout, bah, en termes de, je sais pas comment dire. Voilà, ce truc, voilà, quand je me suis réveillé, moi, ce truc d'avoir des séquelles tout pour le reste de sa vie, c'est quelque chose de différent. Tu poses ton rapport au combat politique d'une autre manière. Alors, je dis pas du tout ça pour faire peur, hein. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui marche en termes de répression pensée à une plus large échelle.
Oui, tout à fait. Ça,
quand les gens ils voient les gilets jaunes se faire mutiler dans tous les sens. Quand les gens ils voient pendant les émeutes de Noël combien il y en a qui ont été tués, en fait, hein. Quand ils voient des manifs comme Sainte-Soline, bon, à un moment donné, bah, ceux qui sont pas convaincus au fin fond de leur être de la nécessité du combat politique, je n'en ai même s'ils vont venir voir une prochaine manifestation dans cette ambiance-là. C'est
complètement. Ben c'est bien vu. L'État voit que ça, c'est-à-dire que foutre la trouille aux gens, quoi, pour qu'ils restent chez eux, ça à tous les niveaux.
Ouais, clairement.
Certes, mais il y a quand
surtout
même...
Surtout dès que c'est pas organisé, encadré. Il fait quand même le choix de défoncer radicalement des moments de lutte qui sont des moments d'auto-organisation très forts.
Tout à fait.
Et qui sont pas... Il n'en est pas encore rendu à défoncer le service d'ordre de la CGT dans une manif tranquille, syndicale, d'opposition politique traditionnelle.
Il commence à se frotter de temps en temps, quand même. Hein,
oui, ça arrive. Ouais. Ça arrive.
Il s'échauffe, quoi.
Le fait est qu'aussi, c'est une autre réponse politique. Si les gens de la CGT commencent à se faire arracher des yeux, ils vont répondre différemment. L'État, il le sait, c'est une question de rapport de force. Hein. Le fait est qu'aussi, on est beaucoup de secteurs de lutte à pas avoir un rapport de force.
Écoute, hein, c'est discutable, hein, ça, parce que tu vois, cette semaine, la semaine dernière, il y a le secrétaire de l'Union départementale du Nord, de la CGT. Donc on est quand même sur des bastions, sur des choses qui sont importantes en capacité de mobilisation, qui passaient au tribunal pour un tract, deux phrases dans un tract, et le procureur de la République requiert un an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme. Tu vois,
non, je ne dis pas que ça existe pas.
La réaction de la CGT, elle était là. Il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient présentes au tribunal. Mais par rapport à ce que ça implique, c'est naze, quoi. C'est naze. Deux phrases, en l'occurrence une, particulièrement, un an de prison avec sursis, perquisition à 6h du matin, et la DGSI qui débarque. Enfin, le message, quand même, quoi.
On va faire une pause musicale, non ?
Attends, on va terminer notre propos, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tu
non, veux dire ? Je pense que l'État, il est très conscient des divisions dans le prolétariat et des moments où ces divisions, elles peuvent être cassées ou au contraire, elles servent le propos répressif. Je veux dire, si pendant Naël, la solidarité envers les gens qui se mobilisaient, elle avait été bien plus forte et des composantes sociales bien plus larges, l'État n'y serait peut-être pas allé aussi fort. Là, je veux dire, on parle de deux personnes à Marseille qui sont fait ouvrir le crâne comme moi, on parle de une ou deux personnes tuées ici ou là, enfin voilà, des choses qui mais qui se font dans l'indifférence la plus totale parce qu'il sait que les divisions sont trop importantes et que du coup, il n'y a pas de problème à réprimer cette partie-là du prolétariat. Alors qu'en sens inverse, si tu attaques des gens dont la majorité de la population qui est potentiellement pourrait rentrer en lutte se reconnaissent dans cette révolution-là et veulent dire stop, ça pose d'autres enjeux.
C'est ça, faire sauter les compartiments, quoi, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, il y a une donnée qui va quand même être non négociable. C'est ce qu'on peut mettre, ce qu'on peut se mettre dans le caddie, quoi, et dans le ventre. Et là, ça commence, on commence vraiment à tirer la langue de plus en plus, quoi. Et la remise au travail obligatoire, le coût de la vie, toutes ces choses-là vont faire que la question d'accès aux besoins vitaux, quand même, elle va entraîner des réactions, quoi.
Ah, mais oui, mais voilà, là-dessus, moi, je suis très confiant, hein. De toute façon, moi, je ne pense pas du tout que le capitalisme soit, à l'heure actuelle, capable d'acheter une seconde. Que la répression, c'est pas que de la répression physique ou judiciaire. La première des répressions étatiques, c'est l'achat de la paix sociale. Et à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont absolument incapables de le faire. Qu'il y a une situation de crise générale qui met forcément les gens au travail dans une surexploitation accrue, et que oui, à un moment donné, il va y avoir de la révolte vis-à-vis de ça.
Et donc, ton boulot, quand tu auras récupéré, même si tu as déjà récupéré, ça va être justement de continuer ce combat-là pour faire sauter ces compartiments et de participer, on va dire, je l'espère, à des nombreux combats et à des nombreuses luttes, quoi. Comment tu envisages ta participation future ?
Oh, je vais pas mentir, hein, j'ai un peu d'appréhension à aller en manif, hein, mais
ça se comprend. Hein.
Mais je vais être encadré par, enfin voilà, encadré, je veux dire, je vais être accompagné.
C'est ça. On va te faire un service d'ordre spécifique.
non, mais ça va.
Non, je vois ce que tu veux dire.
Moi, je suis un peu en panique. Mais après, non, c'est surtout, il faudrait qu'il y ait l'émergence d'une lutte ou d'une dynamique qui me parle particulièrement, parce qu'à l'heure actuelle, c'est sûr que je ne suis pas très motivé par la situation en cours.
Et est-ce que tu as le temps de regarder un petit peu quand même autour de toi ? Est-ce que tu as vu des choses qui t'intéressaient ou qui ont retenu ton attention en termes de lutte, en termes de choses sur lesquelles tu pourrais attirer notre attention ou qui ont attiré ton attention ?
Voilà. Dans mon entourage direct, non. Mais par contre, je pense qu'il se passe des choses très clairement à l'international. Mmh. C'est ce que disent des camarades ici ou là, avec lesquels on garde des contacts. C'est que je pense qu'il faut vraiment penser la situation comme complètement globale. On est trop focalisé sur l'État français, mais ouais. C'est pas que là que je vous lâche les choses.
Oui, par exemple, on n'en a pas parlé parce que malheureusement, on n'a pas d'interlocuteur, on a assez peu d'informations et la barrière de la langue, elle est importante. Il y a une immense lutte en Grèce sur les universités.
Tu viens de me le dire, tiens.
Avec notamment une potentielle privatisation. C'est assez maousse. Il y a eu des tonnes de luttes à l'international dont on n'entend évidemment pas parler, hein. Mais c'est sûr que la clé du problème, elle n'est pas seulement que ici, les contradictions, elles sont entre les États et entre les impérialismes aussi. Et il y a cette double menace là, et cette menace de la guerre, évidemment, qui fait peser aussi des choses sur les épaules et sur les esprits, quoi. Et qui, si elle n'achète pas la paix sociale, en tous les cas, c'est un bon couvercle, quoi. Est-ce que tu souhaiterais rajouter quelque chose avant qu'on respire ?
Non, ça va.
Ça va.
Je crois que les auditeurs peuvent te retrouver sur Off Astivigation, aussi dans Reporter, parce que tu parles de ta situation, de ce que tu as vécu. Voilà, je crois que ça. Tu en es conscient ? T'as été d'accord par rapport à ce qui s'est fait avec eux ? Ça n'avait pas eu de problème ?
Si, il y a eu des problèmes, mais je l'aurais signifié.
D'accord.
c'est le problème des médias, même avec toute la sympathie qu'ils peuvent avoir. Ici, on a l'avantage de se connaître d'une part, mais on n'est pas vraiment un média, on est un outil. C'est pas la même chose, quoi. Donc, bien sûr, même
oui,
toujours.
Moi, je vous avoue, globalement, j'ai refusé jusqu'ici de parler aux médias. Je l'ai fait récemment pour des enjeux qui étaient assez spécifiques liés au un an et compagnie. Le fait est que je pense que depuis le début, je privilégie, et ça a été très bien fait par mes camarades les plus proches, on va dire, la prise de parole autonome de notre part, avec notamment ce blog, là, les camarades du S.
C'est ça.
Des propos bien plus généraux que sur une situation personnelle, là où l'expérience brève que j'ai eue avec les médias était extrêmement focalisée
sur ton cas.
Sur les motifs, je veux dire, l'aspect émotion, sur pas mal de choses, me concernant directement, et vous, je le fais parce que je vous considère comme des camarades.
Merci, c'est gentil. je le note. Non, mais c'est évident que garder le contrôle sur ton expression et sur ce que tu as envie de faire, à la fois comment tu le fais et le nombre de fois tu veux le faire et à qui tu veux le faire, c'est fondamental. Ça fait partie de ta liberté. C'est au moins des trucs que enfin c'est le minimum, quoi. C'est le minimum, quoi.
Okay. Oui.
Bon, Serge, on te laisse tranquille, on te remercie. Nous, on a jeudi ici à Reims une vidéo, un débat projection sur justement Sainte-Soline, où on va y aller pour vérifier que les gens disent pas des bêtises sur toi et aussi porter.
J'en profite avant de vous laisser parce que
oui, je t'en prie.
Un camarade me le rappelle. Dans le dernier communiqué des camarades du S, il finit en lançant un appel à témoignage justement sur on va dire cette épreuve et enfin ça, c'est une organisation éphémère, on va dire, qui cherche à faire son bilan politique de ce qu'ils ont réussi ou non à faire et de ce sur quoi ils ont buté, et du coup ça les intéresse de recevoir des retours vis-à-vis de ce qu'ils ont pu écrire, appeler à faire et compagnie,
okay,
en vue d'alimenter ce bilan. Donc faut pas hésiter, c'est sur le site camaradus.noblogs.org.
C'est ça, et l'objectif, c'est de compiler de l'information et des retours pour qu'ils établissent un bilan critique.
C'était comme je te disais, que je pense que la question de la répression judiciaire et du fichage et compagnie, elle est connue, et il y a des réponses politiques depuis très longtemps dans les milieux radicaux, mais l'expérience de s'organiser face à une répression physique, elle est moins partagée, moins connue. Donc l'idée, c'est d'offrir un document disponible, espérons-le que non, hein, mais à d'autres qui se retrouvent dans une situation similaire.
Tu sais que, et pour conclure là-dessus, on a souvent dit que Gênes, en 2001, avec la mort de Carlo Giuliani et la torture d'environ 60 à 80 personnes à la Cardena Bozzaneto, avait été le point d'arrêt, le cassage de gueule du mouvement altermondialiste, et que ça avait pété les pattes de tout un mouvement dont certains se radicalisaient. Moi, personnellement, j'ai mis plusieurs semaines quand même à m'en remettre psychologiquement, quoi. Et il y a toujours... Il y a toujours quelque chose, et il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, parce que quand tu y es pas, tu peux pas capter. Il est à penser que dans cette stratégie, Sainte-Soline avait une similitude dans l'envie d'envoyer un message global. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a d'autres moyens de continuer la lutte, comme tu viens de le dire, et avec ses capacités, ses possibilités, ses attentions, et notamment la décompartimentation de toutes ces luttes, et de dire que quelqu'un qui manifeste à Sainte-Soline pour préserver la flotte, il tombe sur le même flic ou sur le même état que quelqu'un qui manifeste sa colère quand on tue et qu'on assassine gratuitement un gosse de 17 ans qui avait toute la vie devant lui, quoi. J'espère que ça, les gens qui reviendront de Sainte-Soline, ils se regarderont bien dans le crâne que les différences, c'est nous qui les créons entre nous, et que la vraie différence principale, elle est entre nous et l'État, et entre nous et la bourgeoisie, quoi.
Carrément.
Ouais, bravo. Bon, allez, on va s'écouter un petit Marley, quand même, un peu de reggae, ça va se calmer. Un réglet très anti-inflation, puisque le titre de la chanson, c'est « Ils ont le ventre plein alors que nous, on a faim ». Et puis, toi, je te dis à très bientôt, je sais pas quand.
Oui, avec plaisir.
Ouais, à très très bientôt, prends soin de toi, et avec encore plus de bonnes nouvelles la fois prochaine.
Allez, bien sûr.
Salut Serge.
À bientôt.
Des bisous à tous.
Donc, bon, on donne rendez-vous, ce n'est pas nous qui organisons, c'est le collectif des soulèvements de la terre de la Marne, qui doit être, ou Reims, parce que je ne sais pas quel est l'échelon qui organise. Donc, jeudi, il y aura la projection de ce film, Autopsie d'un carnage, et la présence de membres des soulèvements de la terre et de Bassine Non Merci, et une discussion... autour de ce sujet. Je pense que c'est 20h, mais je ne suis pas sûr, donc je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Mais ce qu'on peut déjà d'ores et déjà dire, c'est que c'est au Temps des Cerises, au chapiteau du Temps des Cerises, donc à côté de l'hippodrome de Reims, et ça sera l'occasion de discuter de tout cela. Oui.
Oui, c'est, je disais simplement que par rapport à cette discussion qu'on a eue avec Serge, il y a un truc qui me paraît important quand même. C'est de réinsister sur le fait que ce type de manifestation telle qu'elle était organisée est à bannir, quoi. Parce que de toute façon, en face, l'État est capable de nous bousiller. Hein, la preuve, ils ont bousillé Serge, ils ont bousillé d'autres. Donc il faut falloir quand même être un peu inventif et de sortir de ces affrontements de face avec l'État, où on risque de toute façon toujours de perdre, puisqu'ils ont les armes. Nous, on n'a pas les armes, hein. La seule chose qu'on a comme arme, c'est de faire grève, c'est de foutre l'économie en l'air, c'est effectivement ce genre de choses. Mais alors les armes, c'est pas la peine d'y croire, quoi. en paume dans ce genre de situation.
Le niveau de l'affrontement, dans ce niveau d'affrontement-là, en direct et en face-à-face, on pourrait même le dire en termes spectaculaires, de se mettre en scène ou de mettre en scène quelque chose, il est voué à un échec et il crée de la casse. Faut-il le rappeler, et on rappellera encore toujours ? On n'est pas en train de dire que l'affrontement est quelque chose de mauvais en soi, bien au contraire. Mais l'affrontement le plus intéressant auquel on a pu participer ces dernières années était un affrontement qui n'avait pas été prévu, qui avait été le fait de non-spécialistes et qui avait été relativement joyeux et spontané. C'est l'émeute à Paris des Gilets jaunes, le 1er, le 8 décembre et le 27 novembre.
Ça s'est mal terminé quand même.
Alors, ça s'est mal terminé. Sur le continuum, puisqu'il y a eu des répétitions. Mais ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, il y a vraiment eu la création d'un rapport de force, et d'un rapport de force qui, en plus, n'était ni spectaculaire, mais qui était d'une joie véritablement joyeux, où les gens se parlaient entre eux. Ils n'étaient pas forcément venus pour ça, mais ils s'en sont agrégés là-dessus, quoi. Et c'est ça aussi l'aspect d'une insurrection ou l'aspect insurrectionnel de quelque chose qu'il peut y avoir. Et après, il y a 10 000 moyens de pouvoir foutre en l'air des bassines dont nous n'allons pas faire la publicité par le biais de ce média.
Oui, parce que voilà. je me suis... j'ai piqué dans Internet... une interview d'opposants aux bassines, et je suis tombé sur un truc qui m'a hérissé les seuls poils qui me restent. C'était le spectre d'une nouvelle manifestation d'ampleur, c'est le titre. Une révolution est en marche, ok. Maintenant, il ne peut plus y avoir de dialogue si les travaux continuent. Donc les opposants promettent une nouvelle manifestation internationale pour mi-juillet, voilà, sur la base en 2017 on était 1500, l'an dernier on était 30 000, la prochaine fois on sera 40 000 ou 50 000. Bon voilà quoi, donc ce genre de mobilisation est de fait complètement irresponsable. Je ne comprends pas que ces gens-là n'ont pas compris qu'en affrontant l'État de face, on risquait de perdre des plumes, c'est moins qu'on puisse dire.
À suivre.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Jewels fast, run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo.
Napaga!
Napaga!